pétrolier au vu du coût de l'investissement initial. Dakar et Nouakchott avaient ordonné des audits qui ont conclu à une surévaluation de ces coûts, des audits qui n'ont pas d'impact sur l'avancée de l'exploitation gazière, estime cependant une source côté mauritanien. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
À Dakar où il est, 4h42, une heure de plus ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Afrique Matin à suivre, reportage à Abidjan avec une conteuse qui a adapté à l'ivoirienne le Kimishibai, c'est un petit théâtre ambulant japonais. Nous recevrons ensuite le fondateur du Dakar Music Expo, le grand rendez-vous de l'industrie musicale sur le continent. Il nous expliquera pourquoi il est important, selon lui, de continuer à faire vivre cette industrie en Afrique. On rentrera en France ensuite à Paris avec José Marinho, direction le Grand Palais pour l'exposition de la japonaise Chiharu Shiota. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, les éliminatoires de l'Afrobasket. La seconde partie s'est ouverte hier dans trois villes, Antananarive, Tripoli et Rabat.
Après quatre journées, quatre équipes sont toujours invaincues. La Côte d'Ivoire a étrié Madagascar sur son terrain 106 à 73. La Tunisie a bénéficié du forfait du Kenya. Et puis à Rabat, le Sénégal a aussi poursuivi son sans faute. 96 à 73 contre le Rwanda dans ce groupe où le Cameroun est aussi qualifié. Troisième victoire en quatre matchs, 82 à 65 face au Gabon.
Et la dernière équipe invaincue, c'est la République démocratique du Congo.
Oui, sur le même parquet, les Léopards ont poursuivi leur carton plein contre le Mali, 65 à 59. Le Soudan du Sud est deuxième de ce groupe A, les Bright Stars qui ont humilié le Maroc, 69 à 37. Journée difficile pour les Marocains, mais tout de même de l'ambiance dans les tribunes à Rabat. Certes peu nombreux, les supporters donnent de la voix et du cœur pour soutenir leurs équipes nationales respectives. Reportage, Cédric Ralfi.
Principalement issus des diasporas installées au Maroc, les spectateurs des qualifications de l'Afrobasket s'époumonnent à encourager leurs équipes. Ousmane est malien et il est très optimiste pour son équipe nationale.
Si on continue comme ça, donc Inch'Allah, on va emporter le coup, Inch'Allah.
Marie, elle est rwandaise et elle est surtout venue pour l'ambiance.
C'est un truc à voir. On est en train de s'amuser.
D'autres spectateurs comme Morbassi Nyang sont plus attentifs. Ce journaliste au quotidien sénégalais Record décrypte d'ores et déjà les différentes stratégies des qualifications.
Je pense que l'équipe rwandaise s'est un peu trompée dans sa stratégie. Les Rwandais ont donné tout ce qu'ils avaient parce qu'ils devaient au moins gagner un de leurs trois matchs. Oubliant que le Sénégal était déjà qualifié avec la victoire du Cameroun.
Moins au fait des stratégies, Fabrice est congolais. Il vit les matchs à fond. Depuis les tribunes, il fait des grands gestes et donne ses instructions aux joueurs.
Je me suis égosillé à leur dire. Le but était de les fatiguer dans les deux premiers cartons et dans les deux derniers, tac, contre-attaquer très, très durement.
Après la victoire de la RDC sur le Mali, Fabrice, notre entraîneur virtuel, est aux anges et il est sûr de lui.
La prochaine victime, le Maroc.
Cédric Ralfi, Rabat, RFI.
Et parmi les autres résultats à Tripoli, cette fois où on espère qu'il y a eu autant d'ambiance, la toute première victoire du Nigeria qui s'est relancé contre la Libye 75 à 70. À Antananarive, la Centrafrique a failli aussi remporter un premier match, mais défaite face à l'Égypte 75-71. Aujourd'hui, Xavier, place à la cinquième et avant-dernière journée de ces éliminatoires de l'Afrobasket.
Et coup d'œil maintenant sur les parquets américains. Un joueur congolais est en train de se refaire une place en NBA.
Mise à l'essai par les San Antonio Spurs, Bismack Biyombo a vu son contrat de 10 jours prolongé hier pour la même durée. Le pivot né à Lubumbashi était titulaire pour la deuxième fois d'affilée cette nuit en l'absence de Victor Wembanyama, blessé on le sait jusqu'à la fin de la saison. Défaite des Spurs 125 à 110 contre Détroit avec un Biyombo assez discret de points et de rebonds en 11 minutes.
Enfin Victor, un autre Congolais sera au centre de l'attention ce soir, combat de boxe au sommet en Arabie Saoudite.
Et le poids lourd Martin Bakole remonte sur le ring plus vite que prévu. Il remplace au pied levé le champion britannique Daniel Dubois, malade, pour affronter le néo-zélandais Joseph Parker. Début des hostilités vers 22h, temps universel.
Et vous nous en direz plus dans le prochain journal des sports dans une heure. Merci Victor Missistrano.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce samedi 22 février, ce sont les 6 otages vivants du Hamas qui vont être remis à Israël aujourd'hui dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. C'est le 7e et dernier échange de la première phase de cet accord. 602 Palestiniens, eux, vont quitter les prisons israéliennes. Le mouvement armé palestinien Hamas qui reconnaît une possible erreur après la restitution jeudi d'un corps qui n'est pas celui d'une otage décédée. Le Hamas a remis une autre dépouille mortelle ce vendredi. Des pays du Golfe ont tenu hier un sommet informel en Arabie Saoudite, une réunion pour discuter d'un plan alternatif au projet de Donald Trump pour la bande de Gaza. C'est la rencontre du Japon et de la Côte d'Ivoire à Abidjan. On parle ce matin de contes pour enfants avec la conteuse Floppy Mendoza qui fait le tour des écoles et des centres culturels pour raconter des histoires qui parlent aux petits Ivoiriens, mais grâce à un outil qu'elle a emprunté au théâtre ambulant japonais, emprunté et adapté. Reportage de Bintadiagne.
Et tcha tcha.
Un petit théâtre en bois est posé sur une table et derrière, la conteuse Floppy Mendoza encourage les enfants à chanter. Elle ouvre progressivement les portes de cet objet qu'elle surnomme le Ngoasa.
Ngoa qui veut dire histoire dans la langue baoulé. Et quand on dit soi, c'est la maison. Donc c'est la maison à histoire.
Et c'est parti. Floppy raconte l'histoire d'un village secoué par la disparition d'œufs magiques, des œufs qui permettent de faire apparaître n'importe quel plat.
Quand on mange quoi encore ? Le foufou, chacun t'a dit son plat préféré comme ça.
Pour attirer l'attention du public, il a fallu adapter le castelet. Floppy Mendoza.
Quand tu ouvres le castelet, ça ressemble à une télé. Donc c'est le mélange de comment on racontait les histoires avant et aujourd'hui, les histoires qui se font à la télé. J'essaie de faire le mélange.
La conteuse fait défiler des dessins représentant les principales actions de l'histoire. Le public participe largement au spectacle, de quoi inspirer Sophie Tehua, une institutrice qui y voit un outil pédagogique pour ses activités éducatives.
Ça me donne des idées pour véhiculer le message qu'on veut dans d'autres activités. On peut l'introduire. Et là, ça me donne vraiment beaucoup d'idées à l'utiliser pour vraiment permettre aux enfants de se l'approprier.
Les débouchés concernent aussi les illustrateurs. Constat dressé par Ange Boussou, étudiant en master d'art et communication. Ce jeune travaille avec plusieurs conteurs ivoiriens et grâce à son portfolio diffusé sur les réseaux sociaux, il répond aussi à des projets commandés de l'étranger.
C'est un constat d'avoir beaucoup de demandes concernant les chara-designs de personnages africains et les chara de décors. Pour des films ou séries africaines, c'est des choses qui sont beaucoup demandées parce que c'est notre culture. J'ai récemment eu une cliente qui m'a contacté depuis le Congo. Dans le même esprit, toujours avec des personnages héroïques africains, des décors aussi, scènes africaines. On a nos messages. Nous aussi, nos traditions qu'on aimerait communiquer aussi.
Tout récemment, une trentaine de bibliothécaires, de maîtres d'école et de conteurs ont été initiés au Kamishibai, version ivoirienne. Bintadiagne Abidjan, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera à Dakar, au Sénégal. On parlera avec notre correspondante de l'avenir du jazz sur le continent africain. Et du jazz, justement, il en est question au Sénégal, à Dakar, car c'est là que se tient depuis jeudi et jusqu'à ce soir le grand rendez-vous de l'industrie musicale africaine, Dakar Music Expo, 6e édition. Pour ce salon qui met en contact les programmateurs, les diffuseurs du monde entier et les musiciens africains pour les aider à s'exporter vers l'étranger. Cette année encore, 25 représentants du réseau de festivals de jazz en Europe, mais aussi 9 délégations africaines et des représentants de Spotify notamment ont répondu présents. On en parle avec notre invité ce matin, Doudou Sarr, manager de Youssou N'Dour et surtout fondateur de ce Dakar Music Expo. Il revient avec nous sur l'importance de ce rendez-vous pour créer une véritable industrie musicale en Afrique. Il répond aux questions de Léa-Lisa Westerhoff.
Bonjour Doudou Sarr.
Bonjour.
Pourquoi faut-il un Dakar Music Expo ?
Après 25 ans de parcours de tous ces salons de musique, je me suis dit, mais pourquoi nous, on n'en a pas un ? On n'en a pas un pour montrer les talents africains et inviter des programmateurs ou des directeurs de festivals ou des professionnels de la musique qui viennent de partout dans le monde.
Il y a un problème de visibilité des artistes africains ?
Ça dépend où on est, parce que le Nigeria, au jour d'aujourd'hui, on en parle partout. L'afrobeats, et même pour la musique électronique, on parle de l'amapiano un peu partout dans le monde. Et donc, la visibilité pour les artistes d'Afrique francophone, c'est en baisse. Quand on compare avec la génération de Youssou N'Dour, de Baba Mal, de Manu Dibango, toute cette belle génération qu'on a eue dans les années 80-90.
Comment ça s'explique?
Alors, ça s'explique peut-être parce qu'il n'y a pas eu autant de promotion. Par exemple, je prends le cas du Sénégal, il n'y a pas un bureau export qui s'attelle à créer de la visibilité pour les artistes comme la France le fait pour ses artistes dans les espaces anglophones. Il y a un bureau export qui est devenu maintenant Centre National de la Musique qui investit dans la promotion des artistes français. Et on n'a pas ces mécanismes en Afrique francophone. Il n'y a pas ces institutions qui sponsorisent la participation dans les salons, par exemple. Nous, on a eu un stand à Marseille l'année dernière. C'était sponsorisé par le Goethe Institut. Il y a un manque criard d'investissement au niveau des institutions africaines, au niveau des pays, des États.
Vous dites qu'il n'y a pas encore d'industrie musicale africaine. Comment ça ?
À l'exception de l'Afrique du Sud où pratiquement tout marche, il y a un écosystème, mais on ne peut pas parler d'industrie parce que le mot industrie revêt ce côté lourd où on a tous les maillons, que ce soit de la création à la production, à la diffusion et au respect de la gestion des droits, tout ça doit marcher en synchro. On a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau de l'Europe ou pour atteindre le niveau des États-Unis. Par exemple, pour la collecte, la gestion des droits, je pense que je prends le cas de la Sodavici qui fait un travail extraordinaire, mais qui peine encore à faire appliquer certaines mesures. Par exemple, pour le paiement des redevances de la part des diffuseurs, c'est un énorme souci sur le continent. Et on sait très bien que la collecte des droits, c'est la source primaire de revenus de l'artiste. Et ça fait défaut.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse y avoir une industrie musicale, pour que ça puisse être une économie qui fonctionne?
Alors, de la législation, mais une forte législation, un allègement des taxes, parce qu'en tant que promoteur ici, avant même d'avoir fait ton concert, tu as 30% sur les recettes projetées à payer. Ça refroidit quiconque veut se lancer dans la production de spectacles. Donc on doit revoir la fiscalisation du secteur de la musique, mais surtout, la mise en application des décrets. Par exemple, le statut de l'artiste, on a mis peut-être 15 ans pour que ça soit ratifié et on attend toujours la mise en application de ce décret. C'est parce que, par exemple, on remarque qu'à la fin de leur vie, beaucoup d'artistes africains n'ont ni assurance maladie, ni rien, ni aucune garantie, aucune source de revenus. Donc ça tend à protéger l'artiste, ça tend aussi à régulariser et à identifier qui est artiste et qui ne l'est pas.
Donc c'est tout un secteur qui demande à être formalisé, organisé. Le DMX participe à faire naître cette économie de la musique.
La partie qu'on joue dans le cadre du DMX, c'est la partie marché, donc vente et achat. Moi, ma force, c'est d'avoir construit un réseau de diffusion en Europe et de les inviter chaque année à Dakar pour qu'ils viennent découvrir du nouveau talent. Moi, je suis plus orienté vers l'export, mais aussi pour aussi inviter des professionnels dans le digital, dans le marketing, dans l'intelligence artificielle pour venir partager leurs connaissances, leurs expériences avec mes jeunes frères et sœurs qui n'ont pas peut-être eu la chance d'aller dans des salons en Europe, mais de voir le PDG de Sony, le PDG du Orchard ou la représentante de Spotify à Dakar, parce qu'ils n'auront jamais 3 000 € fois 10 chaque année pour aller dans des salons pour voir ces gens-là. Et donc, inverser cette tendance-là pour faire venir de grands noms de la musique, de grands professionnels, pas seulement des bookers ou des programmateurs, mais des professionnels de l'industrie pour venir discuter avec ces jeunes-là et partager leurs connaissances et leurs expériences.
Doudou Sarr, merci.
Doudou Sarr, le fondateur du Dakar Music Expo, l'invité de Léa-Lisa Vesterhoff ce matin. Et l'on termine cette demi-heure ensemble à Paris, où le Grand Palais a rouvert pour des expositions à la fin de l'année dernière. Celle qui ouvre le bal en ce moment, c'est l'artiste contemporaine japonaise Chiharu Shiota et ses installations monumentales de fil. Visite guidée avec José Marigny.
L'art de Chiharu Chiota tient à un fil, avec plus de 40 km de cordes de laine monochrome noire ou rouge. L'artiste japonaise a tissé 7 installations monumentales suspendues sous la verrière du Grand Palais. Quel sens donne-t-elle au fil rouge omniprésent dans son œuvre? Mami Kataoka est la commissaire de l'événement parisien.
Les installations de Chiharu Chiota tissent des nuages de milliers de fils. Elles sont comme des dessins en 3 dimensions. C'est une métaphore sur les liens invisibles qui créent l'existence humaine. C'est aussi la connexion avec le destin, mais surtout à la couleur rouge, symbole du sang, de la nationalité, des genres, de la religion, de la famille et de bien d'autres choses.
Le rouge est aussi la couleur du drapeau japonais. Mais que reste-t-il de japonais chez cet artiste international que depuis les années 90 a participé à plus de 300 expositions à travers le monde?
Difficile de la qualifier d'artiste japonaise parce qu'elle vit en Europe depuis 30 ans et qu'elle réside actuellement à Berlin après avoir étudié en 1996 avec la reine de la performance, la Serbe Marina Abramovic, puis la sculptrice polonaise d'avant-garde Magdalena Abakanovic.
Ces deux artistes engagés l'ont libérée de son complexe d'être une femme artiste dans une société dominée par les hommes. Et aujourd'hui, à 53 ans, Chiharu Chiota se situe entre performance et sculpture. Au Grand Palais, dans ses nuages de fils entrelacés, se trouvent prisonniers des clés, des lettres, un piano, des chaises d'enfants et des robes de fées. Des objets qui racontent une histoire éternelle, celle de la mémoire, du vécu, des échecs, de la maladie, de la vulnérabilité, de la nostalgie, mais aussi du désir. Mami Kataoka.
La sensibilité de Chiharu Chiota se traduit par une œuvre universelle, de la naissance à la mort, du rouge comme le cordon ombilical qui marque la naissance, au noir, de l'au-delà et de l'espace. Ça demande beaucoup d'attention à chaque détail parce que le but de cette exposition, c'est de créer un espace d'intimité pour plonger le visiteur dans les profondeurs de l'âme.
Le savoir-faire de Chiharu Chiota dans sa recherche de l'invisible et du non-dit fait un pas de plus vers la compréhension de ce qui constitue l'essence même de l'être humain, la quête de sens.
Et cette exposition au Grand Palais à Paris est à voir jusqu'au 19 mars prochain. Restez avec nous dans un peu plus de 30 secondes. C'est le début d'RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem et avec un nouveau journal, toute l'actualité internationale. Merci à Pauline Berthélémy qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Passez une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale.
Couleurs du son et RFI Talent présente Naïssam Jalal en concert. À l'occasion de la sortie de son dernier album Healing Rituals, autrement dit Rituel de guérison, retrouvez la flûtiste franco-syrienne sur la scène.